Vous écoutez France Culture, il est 17h. Bonjour à tous. Victor Hugo, Madame de Lafayette, Apollinaire ou encore Molière, je vous propose d'écouter des grands classiques de la littérature française, mais aussi parfois des textes d'histoire ou de philosophie lus dans la voix de grands comédiens pour en français dans le texte. Des œuvres au programme du baccalauréat, analysées avec le précieux concours des professeurs de l'éducation nationale. Aujourd'hui, L'ingénu de Voltaire par Elsa Lepoivre de la Comédie française. Et dans une demi-heure, soyez nombreux à nous rejoindre pour la grande dictée de Rachid Santaki, avec aujourd'hui l'auteur d'une déclaration d'amour à la langue française, le producteur du cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Préparez vos stylos et laissez-vous guider jusqu'à 18h.
France Culture, en français dans le texte, Olivia Gesbert.
Conte philosophique paru en 1767, L'ingénu propose un récit emblématique d'une des préoccupations majeures des Lumières, la confrontation de deux mondes où l'un juge l'autre. Ce livre questionne le mythe littéraire et philosophique du bon sauvage, s'inspirant des essais de Montaigne et notamment du chapitre des cannibales. Au XVIIIe siècle, les valeurs des nations européennes dites civilisées sont de plus en plus sujettes à caution, en tout cas à question. L'ingénu est original à plus d'un titre. Son ton, d'abord. Il présente cette confrontation sur un mode ironique, en prenant appui sur le discours et les aventures d'un personnage naïf, dont la sincérité le conduit à ne jamais rien masquer de son étonnement et de ses critiques envers cet ordre social incompréhensible, en contradiction avec ses propres principes. Le récit fait alterner péripéties, confessions autobiographiques et parodies de dialogues à la mode socratique. Ce faisant, il donne toute sa saveur et sa liberté de ton à un plaidoyer subtil. Contrairement à Rousseau, Voltaire n'idéalise jamais son personnage. La seconde originalité de l'ingénu est de peindre l'histoire d'une terrible acculturation sous l'apparence légère et insolente de ce conte. Double acculturation puisque l'ingénu ne tarde pas à révéler qu'il est autant huron qu'européen. Deux siècles avant le réalisateur John Ford, dans La prisonnière du désert, Voltaire traite déjà du thème de l'enfant européen élevé par des Indiens et formé si profondément à leur culture qu'elle lui apparaît comme sienne et naturelle. Voltaire laisse clairement entendre que la construction de soi est avant tout historique et culturelle. L'auteur de l'ingénu se distinguant encore de Rousseau en subvertissant la dialectique de l'homme-nature et de l'homme dénaturé. Si l'acculturation de l'ingénu est double, c'est non seulement en raison de son origine, mais aussi de ses efforts innombrables pour s'intégrer, dont sa conversion n'est qu'une des facettes. Bien que les propos de Voltaire soient avant tout de conduire, à travers les mésaventures de l'ingénu, une critique en règle de la religion et de l'autorité politique en vigueur sous l'Ancien Régime, toute cette histoire témoigne aussi de la terrible violence du passage forcé d'un univers culturel et social à un autre. Certes, le sort de l'ingénu est différent de celui du nègre de Suriname dans Candide, mais bien que n'étant pas esclave, il est lui aussi une victime du rapport inégalitaire entre Européens et peuples dits sauvages. Les chapitres 5 et 6 que vous allez entendre aujourd'hui traitent de l'opposition entre le naturel amoureux et les obstacles des conventions sociales. Voltaire y articule deux dimensions de son analyse, l'une en faveur de la spontanéité du sentiment et du désir, l'autre en faveur des règles sociales qui permettent d'éviter que l'amour le plus sincère ne dégénère. Ce passage du livre est à lui seul un traité de l'amour dans sa double dimension intime et institutionnelle. On commence tout de suite par le chapitre 5, lu pour vous par Elsa Lepoivre de la Comédie française. Avant de retrouver les planches, l'actrice joue actuellement la femme du docteur Dayan, le psy dans la série En thérapie sur Arte. Dans cette série aussi, l'amour a ses raisons que la raison ne connaît pas.
Il faut avouer que depuis ce baptême et ce dîner, Mademoiselle de Saint-Yves souhaita passionnément que Monsieur l'évêque la fît encore participante de quelques beaux sacrements avec Monsieur Hercule l'ingénu. Cependant, Comme elle était bien élevée et fort modeste, elle n'osait convenir tout à fait avec elle-même de ses tendres sentiments. Mais s'il lui échappait un regard, un mot, un geste, une pensée, elle enveloppait tout cela d'un voile de pudeur infiniment aimable. Elle était tendre, vive et sage. Dès que Monsieur l'évêque fut parti, l'ingénue et Mademoiselle de Saint-Yves se rencontrèrent sans avoir fait réflexion qu'ils se cherchaient. Ils se parlèrent sans avoir imaginé ce qu'ils se diraient. L'ingénue lui dit d'abord qu'il l'aimait de tout son cœur et que la belle Abacaba, dont il avait été fou dans son pays, n'approchait pas d'elle. Mademoiselle lui répondit, avec sa modestie ordinaire, qu'il fallait en parler au plus vite à Monsieur le prieur, son oncle, et à Mademoiselle, sa tante, et que de son côté, elle en dirait deux mots à son cher frère, l'abbé de Saint-Yves, et qu'elle se flattait d'un consentement commun. L'ingénue lui répond qu'il n'avait besoin du consentement de personne, qu'il lui paraissait extrêmement ridicule d'aller demander à d'autres ce qu'on devait faire, que, quand deux parties sont d'accord, on n'a pas besoin d'un tiers pour les accommoder. « Je ne consulte personne, dit-il, quand j'ai envie de déjeuner ou de chasser ou de dormir. Je sais bien qu'en amour, il n'est pas mal d'avoir le consentement de la personne à qui on en veut. Mais comme ce n'est ni de mon oncle ni de ma tante que je suis amoureux, ce n'est pas à eux que je dois m'adresser dans cette affaire. Et si vous m'en croyez, vous vous passerez aussi de Monsieur l'abbé de Saint-Yves. » On peut juger que la belle Bretonne employa toute la délicatesse de son esprit à réduire son huron au terme de la bienséance. Elle se fâcha même, et bientôt se radoucit. Enfin, on ne sait comment aurait fini cette conversation si, le jour baissant, Monsieur l'abbé n'avait ramené sa sœur à son abbaye. L'ingénue laissa coucher son oncle et sa tante, qui étaient un peu fatigués de la cérémonie et de leur long dîner. Il passa une partie de la nuit à faire des vers en langue huronne pour sa bien-aimée, car il faut savoir qu'il n'y a aucun pays de la terre où l'amour n'ait rendu les amants poètes. Le lendemain, son oncle lui parla ainsi, après le déjeuner, en présence de Mademoiselle de Kercabon, qui était tout attendrie. « Le ciel soit loué de ce que vous avez l'honneur, mon cher neveu, d'être chrétien et bas-breton. Mais cela ne suffit pas. Je suis un peu sur l'âge. Mon frère n'a laissé qu'un petit coin de terre qui est très peu de choses. J'ai un bon prieuré. Si vous voulez seulement vous faire sous-diacre, comme je l'espère, je vous résignerai mon prieuré et vous vivrez fort à votre aise après avoir été la consolation de ma vieillesse. » L'ingénue répondit « Mon oncle, grand bien vous fasse, vivez tant que vous pourrez. Je ne sais pas ce que c'est que d'être sous-diacre, ni que de résigner, mais tout me sera bon pourvu que j'ai Mademoiselle de Saint-Yves à ma disposition. » « Eh, mon Dieu, mon neveu, que me dites-vous là? Vous aimez donc cette belle demoiselle à la folie ?»« Oui, mon oncle. » »« Hélas, mon neveu, il est impossible que vous l'épousiez. » »« Cela est très possible, mon oncle, car non seulement elle m'a serré la main en me quittant, mais elle m'a promis qu'elle me demanderait en mariage. Et assurément, je l'épouserai. » »« Cela est impossible, vous dis-je. Elle est votre marraine. C'est un péché épouvantable à une marraine de serrer la main de son filleul. Il n'est pas permis d'épouser sa marraine. Les lois divines et humaines s'y opposent. » « Morbleu, mon oncle, vous vous moquez de moi. Pourquoi serait-il défendu d'épouser sa marraine quand elle est jeune et jolie? Je n'ai point vu dans le livre que vous m'avez donné qu'il fût mal d'épouser les filles qui ont aidé les gens à être baptisés. Je m'aperçois tous les jours qu'on fait ici une infinité de choses qui ne sont point dans votre livre et qu'on n'y fait rien de tout ce qu'il dit. Je vous avoue que cela m'étonne et me fâche. Si on me prive de la belle Saint-Yves, sous prétexte de mon baptême, je vous avertis que je l'enlève et que je me débaptise. » Le prieur fut confondu. Sa sœur pleura. « Mon cher frère, dit-elle, il ne faut pas que notre neveu se damne. Notre Saint-Père le Pape peut lui donner dispense, et alors il pourra être chrétiennement heureux avec ce qu'il aime. » L'ingénue embrassa sa tante. « Quel est donc, dit-il, cet homme charmant qui favorise avec tant de bonté les garçons et les filles dans leurs amours? Je veux lui aller parler tout à l'heure. » On lui expliqua ce que c'était que le Pape, et l'ingénue fut encore plus étonnée qu'auparavant. « Il n'y a pas un mot de tout cela dans votre livre, mon cher oncle. J'ai voyagé, je connais la mer, nous sommes ici sur la côte de l'océan. Et je quitterai Mademoiselle de Saint-Yves pour aller demander la permission de l'aimer à un homme qui demeure vers la Méditerranée, à 400 lieues d'ici, et dont je n'entends point la langue. Cela est d'un ridicule incompréhensible. Je vais sur le champ chez Monsieur l'abbé de Saint-Yves, qui ne demeure qu'à une lieue de vous, et je vous réponds que j'épouserai ma maîtresse dans la journée. » Comme il parlait encore, entra le bailli, qui, selon sa coutume, lui demanda où il allait. « Je vais me marier, » dit l'ingénue en courant. Et au bout d'un quart d'heure, il était déjà chez sa belle et chère Basse-Brette qui dormait encore. « Ah, mon frère, » disait Mademoiselle de Kercabon au prieur, « jamais vous ne ferez un sous-diacre de notre neveu. » Le bailli fut très mécontent de ce voyage, car il prétendait que son fils épousât la Saint-Yves. Et ce fils était encore plus sot et plus insupportable que son père. »
Merci à Elsa Lepoivre pour cette lecture. Et tout de suite, l'analyse de cet extrait de l'Ingénu de Voltaire, préparé par Pierre-Henri Harfeux, professeur de philosophie au lycée Herriot de Lyon, pour En français dans le texte. Comme vous avez pu l'entendre, dans ce passage, Voltaire critique les conventions souvent arbitraires. Le premier des principes mis en cause est celui du consentement des tiers. Après Molière, qui dénonçait vigoureusement le mariage de raison, notamment dans l'école des femmes, Voltaire rejette le principe social qui prétend soumettre les sentiments réciproques éprouvés par deux cœurs au jugement des autres. Ici, l'abbé de Saint-Yves est l'oncle de l'ingénu, le prieur Kercabon. La situation se complique encore quand on sait que l'un et l'autre sont des ecclésiastiques pour qui le mariage est affaire de sacrement. En outre, chacun a pour son protégé d'autres projets. L'abbé de Saint-Yves désire marier sa sœur au fils du bailli, tandis que l'abbé de Kercabon ne rêve que de transmettre sa charge à son supposé neveu. À ses obligations, l'ingénu oppose ses sentiments. Leur légitimité relève selon lui uniquement de la subjectivité des amants, en aucun cas du jugement d'autrui. Logique sociale et logique sensible s'opposent alors, et avec elles, deux conceptions du sujet. Ils lui apparaissent extrêmement ridicules d'aller demander à d'autres ce qu'on devait faire, écrit Voltaire dans l'Ingénu, que quand deux parties sont d'accord, on n'a pas besoin d'un tiers pour les accommoder. À l'obéissance arbitraire, vous venez de l'entendre, l'ingénu oppose le principe du libre vouloir. Le sujet est maître de lui-même, encore plus quand ça touche à ses désirs et à ses passions. Le contrat passé avec soi-même et avec autrui est sensualiste. La volonté n'a pas à interroger les autres quand il s'agit de répondre aux appétits du cœur et du corps. Qu'il s'agisse d'aimer, de manger, de chasser ou de dormir, en aucun cas il n'est en effet cohérent d'obéir à une autre logique que celle de l'appétit propre au sujet. Suivre son désir est un fait naturel, l'écouter une question de bon sens. La raison dont fait preuve le Huron n'est ni rhétorique ni sophistique, mais seulement le juste retour de l'esprit qui observe et analyse ses propres sensations. Quand il s'agit d'amour, seul le consentement de l'autre est nécessaire, seule la règle de réciprocité des cœurs qui implique une véritable attention à l'autre et un respect de sa sensibilité. À quelques nuances près cependant, il déclare, en effet, le Huron, « Je sais bien qu'en amour, il n'est pas mal d'avoir le consentement de la personne à qui on en veut. » Ces mots laissent en effet planer l'hypothèse que si le consentement de la personne désirée est préférable, il est peut-être des cas où l'on pourrait s'en passer. La difficulté avec laquelle Mademoiselle de Saint-Yves retient les ardeurs de son amoureux en est un assez indiscutable indice. L'exigence exprimée plus violemment au chapitre suivant de consommer sans délai l'union amoureuse en donnera une nouvelle confirmation. Cependant, une nouvelle contrariété attend l'ingénu à la fin du chapitre 5. Le pauvre amant découvre un obstacle bien plus redoutable. Mademoiselle de Saint-Yves étant sa marraine, il ne saurait l'épouser. En effet, la marraine du baptisé est alors considérée symboliquement comme une mère spirituelle. L'épouser reviendrait donc à commettre un inceste. Pas un inceste du second degré, défini bien plus tard par l'anthropologue Françoise Héritier, par le fait d'épouser un parent par alliance, mais plutôt une sorte d'inceste du troisième genre, où le lien est uniquement religieux. Au fur et à mesure que la société s'éloigne de la nature, les règles du jeu social se compliquent, les interdits se multiplient. Mais là encore, si Rousseau reproche à la société de pervertir irrémédiablement le fond naturel de l'homme, Voltaire, lui, critique plutôt la manière dont les coutumes sociales, civiles ou religieuses briment la liberté des individus. Comme Rousseau, il ignore cependant que dans les sociétés traditionnelles réelles, les contraintes ne sont pas moins fortes qu'en Europe. Et puis dans la société d'adoption de l'ingénu, des arrangements sont toujours possibles. Il révèle en tout cas à quel point l'édifice social est peu rationnel, comme Pascal l'avait déjà souligné à maintes reprises dans ses pensées. Ici, la dispense peut venir du pape. Si dans un premier temps l'ingénu voit dans le pape un brave homme, le croyant proche voisin des Kercabons et doté d'une forme de bienveillante autorité patriarcale de caractère rustique, semblable sans doute à celle des chefs des tribus indiennes du Canada d'où il vient, il ne tarde pas à découvrir que celui-ci exerce un pouvoir abstrait et dépourvu de toute familiarité affectueuse, puisqu'il demeure, je cite Voltaire, « puisqu'il demeure vers la Méditerranée, à 400 lieues d'ici ». L'argument de la distance géographique n'oppose pas seulement le petit monde des sociétés traditionnelles au monde démesuré des institutions et des systèmes de pouvoir. Il souligne ce cas d'aberrante une autorité qui prétend régenter des êtres avec lesquels elle n'a aucun lien direct, si ce n'est celui d'une tutelle de principe et de fait. Celui qui fixe les règles peut, selon son bon vouloir, accorder une dispense. C'est arbitraire et l'ingénue continue de juger absurde d'aller demander la permission à quiconque d'aimer Mademoiselle de Saint-Yves. On va maintenant écouter la lecture réalisée par Elsa Lepoivre du chapitre 6 de l'ingénue de Voltaire et on se retrouve juste après pour la suite de l'analyse.
À peine l'ingénue était arrivé, qu'ayant demandé à une vieille servante où était la chambre de sa maîtresse, il avait poussé fortement la porte mal fermée et s'était élancé vers le lit. Mademoiselle de Saint-Yves, se réveillant en sursaut, s'était écriée « Quoi ? C'est vous ? Ah, c'est vous ! Arrêtez-vous ! Que faites-vous ? » Il avait répondu « Je vous épouse !» Et en effet, il l'épousait si elle ne s'était pas débattue avec toute l'honnêteté d'une personne qui a de l'éducation. L'ingénue n'entendait pas raillerie. Il trouvait toutes ces façons-là extrêmement impertinentes. Ce n'était pas ainsi qu'en usait Mademoiselle Abacaba, ma première maîtresse. Vous n'avez point de probité. Vous m'avez promis mariage et vous ne voulez point faire mariage. C'est manquer aux premières lois de l'honneur. Je vous apprendrai à tenir votre parole et je vous remettrai dans le chemin de la vertu. L'ingénue possédait une vertu mâle et intrépide, digne de son patron Hercule, dont on lui avait donné le nom à son baptême. Il allait l'exercer dans toute son étendue, lorsqu'au cri perçant de la demoiselle plus discrètement vertueuse, accourut le sage abbé de Saint-Yves avec sa gouvernante, un vieux domestique dévot et un prêtre de paroisse. Cette vue modéra le courage de l'assaillant. « Eh mon Dieu, mon cher voisin, lui dit l'abbé, que faites-vous là ?»«
Mon devoir, répliqua le jeune homme, je remplis mes promesses, qui sont sacrées. »
Mademoiselle de Saint-Yves se rajusta en rougissant. On emmena l'ingénue dans un autre appartement. L'abbé lui remontra l'énormité du procédé. L'ingénue se défendit sur les privilèges de la loi naturelle qu'il connaissait parfaitement. L'abbé voulut prouver que la loi positive devait avoir tout l'avantage et que sans les conventions faites entre les hommes, la loi de nature ne serait presque jamais qu'un brigandage naturel. Il faut, lui disait-il, des notaires, des prêtres, des témoins, des contrats, des dispenses. L'ingénue lui répondit par la réflexion que les sauvages ont toujours faite « Vous êtes donc de bien malhonnêtes gens, puisqu'il faut entre vous tant de précautions. » L'abbé eut de la peine à résoudre cette difficulté. « Il y a, dit-il, je l'avoue, beaucoup d'inconstants et de fripons parmi nous. Et il y en aurait autant chez les Hurons s'ils étaient rassemblés dans une grande ville. Mais aussi, il y a des âmes sages, honnêtes, éclairées. Et ce sont ces hommes-là qui ont fait les lois. Plus on est homme de bien, plus on doit s'y soumettre. On donne l'exemple aux vicieux qui respectent un frein que la vertu s'est donné elle-même. » Cette réponse frappa l'ingénue. On a déjà remarqué qu'il avait l'esprit juste. On l'adoucit par des paroles flatteuses. On lui donna des espérances. Ce sont les deux pièges où les hommes des deux hémisphères se prennent. On lui présenta même Mademoiselle de Saint-Yves quand elle lui fait sa toilette. Tout se passa avec la plus grande bienséance, mais malgré cette décence, les yeux étincelants de l'ingénu Hercule firent toujours baisser ceux de sa maîtresse et trembler la compagnie. On eut une peine extrême à le renvoyer chez ses parents. Il fallut encore employer le crédit de la belle Saint-Yves. Plus elle sentait son pouvoir sur lui, et plus elle l'aimait. Elle le fit partir et en fut très affligée. Enfin, quand il fut parti, l'abbé, qui non seulement était le frère très aîné de Mademoiselle de Saint-Yves, mais qui était aussi son tuteur, prit le parti de soustraire sa pupille aux empressements de cet amant terrible. Il alla consulter le bailli, qui, destinant toujours son fils à la sœur de l'abbé, lui conseilla de mettre la pauvre fille dans une communauté. Ce fut un coup terrible. Une indifférente qu'on mettrait en couvent jetterait les hauts cris, mais une amante, et une amante aussi sage que tendre, c'était de quoi la mettre au désespoir. L'ingénue, de retour chez le prieur, raconta tout avec sa naïveté ordinaire. Il essuya les mêmes remontrances qui firent quelque effet sur son esprit et aucun sur ses sens. Mais le lendemain, quand il voulut retourner chez sa belle maîtresse pour raisonner avec elle sur la loi naturelle et sur la loi de convention, monsieur le bailli lui apprit avec une joie insultante qu'elle était dans un couvent. « Eh bien, dit-il, j'irai raisonner dans ce couvent. »« Cela ne se peut, dit le bailli. » Il lui expliqua fort au long ce que c'était qu'un couvent ou un convent, que ce mot venait du latin « conventus », qui signifie « assemblée ». Et le Huron ne pouvait comprendre pourquoi il ne pouvait pas être admis dans l'assemblée. Sitôt qu'il fut instruit que cette assemblée était une espèce de prison où l'on tenait les filles renfermées, chose horrible, inconnue chez les Hurons et chez les Anglais, il devint aussi furieux que le fut son patron Hercule, lorsque Rite, roi de Calie, non moins cruel que l'abbé de Saint-Yves, lui refusa la belle Iole, sa fille, non moins belle que la sœur de l'abbé. Il voulait aller mettre le feu au couvent, enlever sa maîtresse ou se brûler avec elle. Mademoiselle de Kercabon, épouvantée, renonçait plus que jamais à toutes les espérances de voir son neveu sous diacre et disait en pleurant qu'il avait le diable au corps depuis qu'il était baptisé.
Après cette nouvelle lecture d'Elsa Lepoivre de la Comédie française, on va continuer notre analyse en compagnie du professeur de philosophie du lycée Herriot à Lyon, Pierre-Henri Harfeu.
France Culture, en français dans le texte, Olivia Gesbert.
Car ça se passe comme ça, chaque samedi dans En français dans le texte, on écoute et ensuite on commente. Le chapitre 6 s'accompagne, vous l'avez peut-être noté, d'une accélération des événements. La première, révolte à l'œuvre, est celle du désir contre les usages. À la fin du chapitre 5, souvenez-vous, l'ingénu quitte la maison de son oncle et déclare au bailli qui s'étonne de sa conduite « Je vais marier », Voltaire précisant que l'ingénu s'éloigne en courant. Ce détail a son importance car nous entrons avec lui dans une phase où l'ingénu n'obéit plus qu'aux impulsions du corps et de la passion, tel un nouvel Orlando Furioso. « Je vous épouse », affirme-t-il à Mademoiselle de Saint-Yves, effrayée de son irruption dans sa chambre. Les protestations de sa maîtresse n'y font rien, seule la logique de la nécessité dirige alors le Huron et sa conduite ne lui semble pas amorale. À l'abbé de Saint-Yves, il dit d'ailleurs « Mon devoir, je remplis mes promesses qui sont sacrées ». À ses yeux, c'est Mademoiselle de Saint-Yves qui n'est pas honnête et commet une faute morale. « Vous n'avez point de probité, vous m'avez promis le mariage et vous ne voulez point faire mariage. C'est manquer aux premières lois de l'honneur ». Son indignation est sincère. Deux conceptions de l'honnêteté entrent donc ici en collision. Celle de la pudeur, une femme ne s'abandonne à son premier qu'une fois le mariage civil et religieux célébré. Et celle du serment qui veut qu'on ne puisse reprendre sa parole sans trahir l'honneur. Je vous apprendrai à tenir votre parole et je vous remettrai dans le chemin de la vertu, dit l'ingénu. Néanmoins, il projette bel et bien de s'emparer de force de la jeune femme au lieu de respecter ses scrupules et son refus, se passant finalement de son consentement et voulant imposer ce qui relève d'une forme caractéristique de la domination masculine. Et oui, déjà, transformé par l'éducation reçue auprès de M. Gordon, l'amour de l'ingénu empruntera à la fin du livre une forme, vous le verrez, bien plus noble, preuve s'il en est que Voltaire ne se contente pas d'opposer les vertus de la nature aux vices de la culture. Toutefois, le dialogue qui oppose l'ingénu et l'abbé de Saint-Yves souligne la complexité du problème. D'un côté, l'abbé souligne l'importance de la loi positive comme un rempart contre les abus nés de l'état de nature. L'abbé voulut prouver que la loi positive devait avoir tout l'avantage et que sans les conventions faites entre les hommes, la loi de nature ne serait presque jamais qu'un brigandage naturel. L'ingénu a beau répondre « Vous êtes donc de bien malhonnêtes gens puisqu'il faut, entre vous, tant de précautions ». L'argument de l'abbé n'est pas dépourvu, vous l'avouerez, d'une pertinence dont on peut penser que Voltaire reconnaît la justesse, surtout si l'on tient compte de la nuance que l'abbé de Saint-Yves apporte après avoir entendu l'objection de l'ingénu. À la conception d'un état de nature bornant les hommes à des désirs aisément satisfaits et limités, le discours de l'abbé répond par une conception beaucoup plus pessimiste, celle du brigandage naturel qui fait des hommes à l'état de nature des hors-la-loi au sens propre du terme et donc des prédateurs potentiels. L'invention du contrat social, à laquelle se réfère implicitement l'abbé de Saint-Yves, quand il affirme l'importance d'interposer des notaires, des prêtres, des témoins, des contrats, des dispenses, permet justement de juguler cette sauvagerie naturelle. Pourtant, en bon sauvage, à ce moment plus rousseauiste que voltairien, l'ingénu répond que le système des lois positives ne fait qu'exprimer la dépravation des membres des sociétés européennes qui éprouvent le besoin d'un tel appareil juridique. Celui-ci ne lui semble pas l'indice d'une harmonie, mais d'une défiance. À cette objection, l'abbé de Saint-Yves, dans un premier temps embarrassé, répond que si ces lois sont rendues nécessaires par un nombre supérieur de fripons chez les Européens, les Hurons se heurteraient aux mêmes contradictions s'ils étaient rassemblés dans une grande ville, écrit Voltaire. En un sens, l'abbé de Saint-Yves reconnaît que la culture, à travers son ferment urbain, celui de la cité, au double sens grec du terme, est responsable de la dérive violente qui conduit les hommes à la prédation et rend indispensable la barrière des lois. Mais il laisse aussi entendre en filigrane que n'importe quel peuple est susceptible d'une telle dérive violente. L'essentiel est donc ailleurs. Il s'agit de reconnaître que les lois, même si leur origine tient à la perversité d'une humanité dénaturée, s'en détachent au lieu de la camoufler, car ainsi que l'affirme l'abbé, il y a aussi des âmes sages, honnêtes, éclairées, et ce sont ces hommes-là qui ont fait les lois. Cette réponse frappa l'ingénu. On avait déjà remarqué qu'il avait l'esprit juste. Il n'en reste pas moins que la société dans laquelle évolue le malheureux Huron est loin de se conformer à la vocation morale de loi organisatrice d'une société qui se veut plus vertueuse. À commencer par l'abbé de Saint-Yves, lui-même, qui malgré ses beaux discours philosophiques, entreprend aussitôt de soustraire sa sœur, je cite, « aux empressements de cet amant terrible » en la plaçant, devinez quoi, dans un couvent. Après avoir tenté de s'emparer de ce qu'il considère comme son dû conjugal, découvrant que le couvent était une espèce de prison où l'on tenait les filles enfermées, l'ingénu projette de l'attaquer, de mettre le feu, enlever sa maîtresse ou se brûler avec elle. La scène s'en tient là, mais on mesure toute l'audace d'une telle rébellion, fût-elle seulement couchée sur le papier et non pas incarnée dans la réalité. Il faut en effet se souvenir que seulement 22 ans après la rédaction de l'ingénu, un autre lieu d'enfermement arbitraire, que Voltaire connaît bien et dont son héros endurera lui aussi les rigueurs, sera bel et bien attaqué, incendié et détruit par une foule révoltée le 14 juillet 1789. Mais au moment où le Huron rêve de s'emparer d'un couvent, la Bastille, elle, est encore bien solide. Toutefois, ce n'est pas sur cette sombre perspective que s'achève le chapitre, Voltaire préférant pour conclure un des magnifiques mots d'esprit qui ont fait sa réputation. Mademoiselle de Carcabon, épouvantée, renonçait plus que jamais à toutes les espérances de voir son neveu sous diacre et disait en pleurant qu'il avait le diable au corps depuis qu'il était baptisé. Merci beaucoup à Pierre-Henri Harfeu du lycée Herriot de Lyon pour son analyse réalisée pour En français dans le texte. Merci à Patrick Laudet, inspecteur général, et à Anne Simzac pour leur aide précieuse. C'était donc l'ingénu de Voltaire. Tout de suite, un stylo, un papier, c'est la dictée de Rachid Santaki, avec aujourd'hui l'historien et producteur sur France Culture, Xavier Mauduit. Vous pouvez nous suivre en direct sur votre radio dans quelques instants ou nous retrouver sur le Facebook de France Culture en vidéo. À tout de suite. Le légendaire trompettiste de jazz américain Miles Davis et un extrait de l'album Live in Tokyo, enregistré sur place en 1964. L'album est dans les bacs depuis la rentrée. So what? C'est l'heure de la dictée.
France Culture, en français dans le texte. La dictée de Rachid Santaki.
Écoutez bien, messieurs. 30 louis à celui qui trouvera l'énigme. 5 voyelles, une consonne. En français, porte mon nom. Et je porte sur ma personne de quoi l'écrire sans crayon. Je vous écoute, monsieur le poète.
De légères et fines plumes, souples comme des roseaux, la bille d'un joli costume. Cet heureux-là est un oiseau.
Bravo ! Bravo !
Il n'avait pas trouvé dans ce studio. Je vous parlais de l'ingénu dans la première partie de En français dans le texte. Or, l'auteur comme son personnage, Voltaire comme son ingénu, a eu une jeunesse avant d'être le philosophe des Lumières qu'on connaît. Voltaire était François-Marie Arouet, fils de notaire rebelle, surdoué et très ambitieux. À voir en ce moment sur France 2 et sur salto.fr, la série Les aventures du jeune Voltaire, la deuxième de ces parties de ses aventures, sera diffusée justement ce lundi. Dans l'extrait de l'épisode 1 que vous venez d'entendre, le jeune homme répond en vers à une énigme lancée par la duchesse du Maine. Bonjour Rachid Santaki.
Bonjour Olivia.
Oui, bonjour Xavier Bauduy.
Bonjour Olivia, bonjour Rachid.
Bonjour Xavier.
Vous n'aviez pas trouvé, ni l'un ni l'autre.
Non.
Voilà, bon, bah, quand une duchesse vous lance un défi, une énigme comme celle-ci, il faut quand même pourtant essayer de retrouver. Vous allez voir que l'énigme du jour va être bien plus redoutable. C'est celle que va nous lancer Rachid Santaki. Xavier Maudit, vous êtes producteur du cours de l'histoire, vous êtes historien. Et vous, c'est la grande énigme de la langue française que vous percez à jour dans un nouveau livre, Notre grammaire est sexy, avec Laure de Chantal chez Stock. On a plaisir à vous recevoir pour la deuxième fois. La dernière fois, c'était un sans faute ou un quasi sans faute de mémoire. Et c'était à l'occasion de votre grande histoire de la dictée. Aujourd'hui, vous remettez le couvert, donc avec cet ouvrage et un choix de texte très approprié.
Aujourd'hui, vous serez donc confronté à un extrait du deuxième sexe de Simone de Beauvoir.
Formidable.
Très bien.
Bien.
Le premier m'avait beaucoup plu déjà.
Comme Rachid, vous plaidez, vous, Xavier Mauduit, pour une approche ludique de la langue, pour mieux se l'approprier. Le rappel des règles, quand même, parce qu'il y a des règles dans ce studio. Hein. Une première lecture pour se mettre le texte de cette dictée dans l'oreille, une seconde pour noter et une troisième pour corriger ensemble. Le deuxième sexe, donc, de Simone de Beauvoir, c'est le livre, hein, l'essai le plus connu de Madame, publié en 1949. C'est aussi un essai qui parle à la fois de la condition des femmes, de la condition féminine à cette époque-là, après la Seconde Guerre, mais qui revient aussi dans toute l'histoire de cette condition et qui montre que tout ceci a été construit socialement, historiquement. Justement, dans le passage que vous avez retenu aujourd'hui, Rachid Santaki, on va remonter jusqu'au Moyen-Âge, une époque que vous connaissez bien.
Et oui, parce que le Moyen-Âge, pour la langue, est une période absolument merveilleuse, avec des tonnes de mots pour certains qui ont disparu et qui mériteraient de revenir.
Mmh. Des mots et des situations, des châtelains et des châtelaines, des roturiers, des suzerains peut-être aussi. Nous allons voir ce qui se joue dans ce texte-là. Le quotidien de la châtelaine au menu aujourd'hui. On commence par une première lecture.
Très bien. Cependant, de tels faits demeurent exceptionnels. Ordinairement, la châtelaine passe ses journées à filer, à faire oraison, à attendre son époux et à s'ennuyer. On a prétendu souvent que l'amour courtois qui naît au 12e dans le midi méditerranéen aurait amené une amélioration du sort de la femme. Sur ses origines, diverses thèses s'affrontent. Selon les uns, la courtoisie découle des rapports de la suzeraine avec ses jeunes vassaux. D'autres la rattachent aux hérésies cathares et au culte de la Vierge. D'autres font dériver l'amour profane de l'amour de Dieu en général. On n'est pas bien sûr que les cours d'amour aient jamais existé. Point final.
Merci vivement Rachid, merci Olivia, je vous laisse. Hein. Non, je reste.
Mais est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de difficultés? Quelques-unes hein, quand même.
Quelques-unes, ouais. Mais Xavier va s'amuser avec ce texte, je pense.
Mais écoutez, le texte est sublime, il faut le dire.
Il n'est pas trop daté.
Non, il n'est pas trop daté, il fait encore écho à notre présent. C'est l'avantage de l'histoire, parce que l'histoire aide sans cesse à expliquer l'actualité. Parce que l'histoire, en vérité, ça ne servirait pas à grand-chose si ça n'expliquait pas notre présent.
D'accord. Bon, on va voir en quoi. Pour l'instant, on ne s'ennuie pas. Et de l'autre côté du poste aussi, on choisit un bon stylo. On sort sa feuille, on se délie le poignet et on s'apprête à prendre note, à prendre la dictée. Ça se dit ça, Xavier Mauduit ?
Oui, je trouve que c'est joli, prendre la dictée comme prendre une fessée.
Oui, c'est ça. Voilà, c'est l'auteur de Notre grammaire est sexy. Ça n'arrête pas. Hein.
C'est parti pour la seconde lecture. Cependant, de tels faits, cependant, de tels faits, demeurent exceptionnels, point. Cependant, de tels faits, demeurent exceptionnels, point. Ordinairement, la châtelaine passe ses journées. Je répète pour les plus jeunes, cependant, de tels faits demeurent exceptionnels. Point. Ordinairement, la châtelaine passe ses journées à filer, virgule. Passe ses journées à filer, virgule, à faire oraison, virgule, à faire oraison, virgule, à faire oraison, virgule, à attendre son époux, à attendre son époux, et à s'ennuyer, point. Je répète, ordinairement, la châtelaine passe ses journées à filer, virgule, à faire oraison, à attendre son époux et à s'ennuyer, point, fin de la dictée pour les écoliers. On a prétendu souvent que l'amour courtois qui naît au 12e, alors en chiffres romains s'il vous plaît, on a prétendu souvent que l'amour courtois qui naît au 12e, dans le midi méditerranéen, qui naît au 12e, dans le midi méditerranéen, aurait amené une amélioration, je répète, qui naît au 12e, dans le midi méditerranéen, aurait amené une amélioration du sort de la femme, point. Aurait amené une amélioration du sort de la femme, point. Sur ses origines, diverses thèses s'affrontent, deux points. Diverses thèses s'affrontent, deux points. Selon les uns, virgule, la courtoisie, donc courtoisie entre guillemets, je répète, sur ses origines, virgule, diverses thèses s'affrontent, deux points. Selon les uns, virgule, la et courtoisie donc, entre guillemets, découle des rapports de la suzeraine, découle des rapports de la suzeraine avec ses jeunes vassaux, point virgule. Selon les uns, virgule, la courtoisie découle des rapports de la suzeraine avec ses jeunes vassaux, point virgule. D'autres la rattachent aux hérésies cathares et au culte de la Vierge, point virgule. Je répète. D'autres la rattachent aux hérésies cathares et au culte de la Vierge, point virgule. D'autres font dériver, d'autres font dériver l'amour profane de l'amour de Dieu. D'autres font dériver l'amour profane de l'amour de Dieu en général, point. En général, point. On n'est pas bien sûr, on n'est pas bien sûr que les cours d'amour, aient jamais existé, point final. On n'est pas bien sûr que les cours d'amour aient jamais existé, point final. Voilà.
Bravo à tous ceux qui se sont prêtés au jeu de cette dictée. On va tenter une correction et de trouver les points de difficulté. Alors on a un S spécialiste de la grammaire aujourd'hui avec nous, qui en saura même peut-être plus encore et qui va nous aider à vous guider dans les chemins de cette belle langue française à qui il déclare d'ailleurs son amour avec Laure de Chantal, donc dans un ouvrage « Notre grammaire est sexy » qui paraît chez Stock, Xavier Mauduit. Niveau de difficulté ?
Niveau de difficulté qui semble a priori accessible, mais c'est vrai, l'orthographe, la grammaire peut sembler simple quand on entend le texte, mais la difficulté est là, au moment où la plume glisse sur le papier et où il y a l'hésitation. Il n'y a rien de pire lors d'une dictée que l'hésitation.
Et vous le dites aussi, la grammaire dans ce livre, Xavier Mauduit, c'est l'art d'écrire et de parler bien, de parler correctement. Ça veut dire qu'une faute de grammaire, ça peut s'entendre à l'oral ou pas ?
Il n'y a aucune faute de grammaire à l'oral. Avec Laure de Chantal, ce que nous voulions, c'était vraiment déclarer cet amour à la langue française parce qu'elle est sexy au sens où, comme dans toutes les histoires d'amour, ce qui est trop simple n'est pas intéressant. Il faut quelques difficultés avec la langue française. Oh là là, mais il y en a des difficultés. Donc le sexy est poussé absolument à l'extrême. Et oui, il est possible d'entendre la faute de grammaire, bon, ne serait-ce qu'avec la liaison. Hein. La liaison, c'est quelque chose de terrible en français. Mais cette langue française est sublime. Et nous l'avons entendu avec Rachid. Il y a une musicalité de la langue, il y a une poésie, et ça c'est la spécificité du français avec toutes ces lettres muettes, le E muet, le H muet, et donc ce H, ce E donne un rythme scande, mais alors là dès lors il est une difficulté sans nom, parce que faut-il le faire apparaître, et puis c'est le cas aussi des doublements de consonnes, ces choses-là c'est vrai qu'on n'entend pas facilement à l'oral, mais alors quel piège.
Voilà, alors peut-être la question aurait pu se poser pour Oraison qui va arriver dans cette dictée avec ou sans H. Il va falloir en revenir un peu aux racines pour s'y retrouver. Cependant, de tel fait, tel au pluriel, T-E-L-S, fait, F-A-I-T-S, demeure, donc on est sur le verbe demeurer, au pluriel, E-N-T, hein, demeure exceptionnel, comme l'a très bien dit Rachid Santaki. Exceptionnel, fait étant masculin, exceptionnel, c'est E-L-S, on accorde donc au pluriel, mais pas au féminin. Ordinairement, la châtelaine. Alors, comment l'avez-vous écrit, Xavier Mauduit, cette châtelaine ?
Cette châtelaine, elle est avec un seul L, tranquillement. C'est vrai que la châtelaine est un personnage qui est intéressant ici, parce que dans la consonance, c'est extrêmement simple. La question qui se pose est le circonflexe sur le A.
Vous y répondez comment ?
Moi, j'ai hésité. J'ai hésité parce que on est toujours dans des histoires de faut-il le mettre ou pas, parce que sur certains mots du même champ lexical il y est, et sur d'autres non. Moi je ne l'ai pas mis ici.
Ah d'accord.
Vous l'avez mis vous, il y en a un.
Oui effectivement.
Ouais, il y en a un. J'ai eu un doute, j'ai eu peur en me disant mais ce château qui est là ne se transforme-t-il pas ? Vous savez, avec l'accent circonflexe ici, nous touchons à quelque chose qui nous conduit directement au Moyen-Âge, parce qu'au moment où les moines copistes écrivaient, il a fallu mettre des petits signes, alors parfois en abréviation, et souvent pour évoquer une lettre qui avait disparu avec l'accent circonflexe, c'est le S, et ce S
et ben
qui
voilà.
Est sublime, et voilà, et c'est ce castel.
C'est ce castellum, alors
c'est
du
ce castellum.
Coup, si on en revient au latin, là du coup, ça justifie ou ça explique l'accent circonflexe, non si
voilà,
on
c'est le castel, c'est comme la forêt avec la forest, et c'est comme notre corps qui conserve son S de corpus.
La châtelaine passe ses journées affilées. Donc, ce sont les siennes, possessif, SES, journée, EES, affilée.
ER.
ER, on est dans l'infinitif. Affaire, oraison, oraison.
Alors, oraison, il y a deux questions. Déjà, celle du H. Non, il n'y a pas de H à oraison, à une oraison. Alors, c'est vrai qu'écrire prière semble plus simple dans la vie. Mais oraison, c'est très joli. La question qui se pose est celle du pluriel, moi, je dirais. Je l'ai mis au pluriel. Parce qu'on fait des oraisons.
J'adore, il a déjà deux fautes.
C'est vrai, c'est une faute.
Oui.
On va parler d'erreur. C'est très tolérant.
Faute.
Dans l'émission française dans le texte.
Non, merci Rachid.
Pardon pour ceux qui nous écoutent. Il est assez incollable normalement Xavier Mauduit, donc si on a réussi, et surtout Rachid par le choix de sa dictée, à le confondre, c'est une bonne nouvelle. Non, il n'y avait pas de S à oraison, à faire oraison. Alors en tout cas, ça vient du latin oratio. La prière, oraison, O-R-A-I-S-O-N, comme la raison d'État. À faire oraison, à attendre son époux et à s'ennuyer, on reste sur des infinitifs. Hein, attendre, s'ennuyer, E-R. On n'oublie pas l'accent grave à s'ennuyer. Hein. Ah oui, on n'est pas sur un passé composé.
Et non, on ne peut pas dire avait s'ennuyer.
Non, on ne peut pas, on ne peut pas. On a prétendu souvent que l'amour courtois qui naît au XIIe siècle, dans le Midi méditerranéen. Alors, on a prétendu, P-R-E-T-E-N, hein, pas A-N-E-N-D-U, souvent que l'amour courtois, comment vous écrivez courtois ?
C-O-U-R-T-O-I-S, parce que bah, justement, la courtoisie qui va très vite arriver n'est pas loin.
Qui naît, le verbe naître.
Le verbe naître, moi j'ai mis le circonflexe ici.
Très bien. Et j'avais donc noté que le « i » devant le « t » prend un accent circonflexe et que ça a changé donc avec la réforme de l'orthographe de 1990 qui autorise à le supprimer.
Exactement. Et c'est bien de te souvenir, Rachid, parce qu'il y a eu une réforme de l'orthographe au début du XXe siècle. Il y en a une beaucoup plus récente. Et dans les deux cas, cela nous donne beaucoup plus de possibilités, non pas de faire des fautes, mais d'écrire les mots de plusieurs manières.
Alors si je dis par exemple « on ne naît pas femme, on le devient », là je mets un accent circonflexe ou pas sur,
bah oui.
Sur le naître. Très bien, on retiendra ça. Qui naît au XIIe siècle, non au XIIe tout court d'ailleurs, dans la manière dont vous l'avez formulé Rachid, dans le Midi méditerranéen. Alors vous avez demandé de l'écrire en lettres, hein, pof pof.
Alors en chiffre, effectivement, chiffre romain.
J'y arrive pas, voilà. En chiffre romain et pas en lettres.
Trois bâtons, bâtons.
Oui. Celui-là, c'est plutôt facile. Hein. Dans le livre, vous avez mis des exemples beaucoup plus compliqués.
Effectivement, aujourd'hui, romain. Par exemple, c'est vrai que c'est difficile hein, de faire les siècles de maintenant. On est habitué aux chiffres romains pour les siècles du passé. Alors, c'est vrai qu'aller jusqu'à 21, ça va. Mais alors, dès qu'il faut dire l'année 2020, alors les années 1990 qu'on évoquait, là, ça devient compliqué, mais c'est joli.
Mais là, vous revenez aussi au Moyen-Âge, hein, sur cette question de l'écriture des nombres.
Oui, parce que c'est sûr qu'il y a toute cette réflexion à donner sur l'histoire de la langue, puisque ce que nous faisons là maintenant, Olivia, dans l'émission, c'est juste le fruit d'une très longue histoire. Et c'est vraiment amusant, et c'est ce qu'on a voulu faire avec Laure de Chantal dans ce livre sur la grammaire, c'est de montrer qu'il est possible de raconter la grammaire. Et une fois qu'on a saisi le pourquoi des choses, eh bien tout de suite, il est beaucoup plus simple de bien écrire. Et c'est vrai qu'en évoquant justement le château, et puis l'hôpital, etc. Quand on connaît la source et la racine, ça devient presque évident.
Alors, juste sur l'écriture des nombres, une règle importante qu'on retrouve souvent, le S à 20, quand il y en a 80, mais si 20 est suivi d'un autre nombre, dans ces cas-là, on ne met pas de S et jamais à 1000. Et le 100, ça marche comme pour le 20. Voilà, en gros, si on devait résumer. On avance avec le Midi méditerranéen. Vous avez mis une majuscule ou pas à Midi ?
Non, moi, j'ai pas mis de majuscule au sens où bien souvent, alors ça aussi, ce sont des usages selon des moments, bien souvent, la majuscule signifie vraiment une région au sens du Midi, le Midi, comme on disait au 19e siècle très souvent, ou le Sud. Mais quand nous nous dirigeons vers le Sud, au sens de point cardinal, il n'y aurait pas besoin de majuscule. Qu'a fait Simone de Beauvoir ?
Elle l'a estimé que c'était effectivement une région.
Exactement. Ouais. Les noms des départements et des régions s'écrivent avec une majuscule.
Enfin, en tout cas là, dans cette...
Elle considère le Midi comme étant la région du Midi.
Donc elle l'a écrit avec une majuscule. Dans le Midi méditerranéen, aurait amené, avez-vous bien dit Rachid, donc A-U-R-A-I-T, c'est l'auxiliaire avoir, conjugué à la troisième personne, une amélioration du sort de la femme, pas de difficulté je crois ici, sur ses origines, c'est...
Les siennes. Je pense que ce sont les origines. Mais les deux pourraient se dire, parce que ce n'est pas les origines de la femme. Et attendez, en le relisant, je me dis qu'il peut y avoir, mettant SES, un contresens du sort de la femme. Ah, sont les origines du sort, on pourrait dire. Rachid,
choisissez. Non, 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 pas d'aide. D'abord, tranchez.
Vous avez vu hésiter,
que...
Xavier, pardon, ouais. Lisa. Ouais. Vous avez vu hésiter, il me semble. Hein,
oui, exactement. J'hésitais parce que j'ai cherché à quoi correspondait ce 16 origines. Ce sont les origines de quoi? Ce ne sont pas les origines de la femme, bien sûr. Une amélioration du sort de la femme. Donc, Tata, c'est l'amour courtois. C'est bien cela, hein. Souvent, que l'amour courtois qui naît au XIIe siècle. Donc, c'est les origines de l'amour courtois. J'ai mis 16 origines SES.
Et vous restez à SES?
Rachid, dites-moi, je reste à SES, mais...
Donc, ses origines.
De l'amour courtois, les siennes.
Non, pas les siennes.
Ah, c'est la suce
du doigt.
D'accord.
Sur ses origines, donc effectivement, CES.
C'était pas un possessif. CES, ça vous fait une faute de plus, Xavier Mauduit. Sur ses origines, diverses thèses, D-I-V-E-R-S-E-S, hein, on accorde à thèse, qui est un nom féminin pluriel dans l'espèce, T. H, on n'oublie pas le H, E, accent grave, SES, s'affrontent, ne pas oublier le pluriel là encore, ENT. Selon les uns, la courtoisie découle des rapports de la suzeraine. Suzeraine.
Comme Zorro, avec un Z.
Très bien.
Enfin, en tout cas, sur le deuxième, oui, on voit le premier, de toute façon, est beaucoup plus glissant. De la suzeraine, S-U-Z-E-R, un seul R, A-I-N-E. C'est bon pour vous,
c'est
Xavier.
C'est bon pour moi.
Avec ces jeunes vassaux. Vassaux.
V-A-2-S-A-U-X.
Bon, ça, c'est une histoire de la vassalité que vous devez bien connaître, voilà, à travers ça. Cette période qui est la vôtre aussi, un peu le Moyen-Âge, Xavier Mauduit. D'autres la rattachent aux hérésies cathares et au culte de la Vierge. Alors peut-être deux, trois difficultés dans cette phrase. D'autres, on n'oublie pas le S, la rattachent, R-A-2-T-A-C-H-E-N-T, aux hérésies cathares. Hérésie. Et Qatar, Xavier Mauduit.
Alors, hérésie, cette fois-ci, il y a le H que nous n'avons pas mis à oraison, et ça tombe très bien. Mm-hmm. Qatar, il y a aussi le H après le T, et honnêtement, je ne saurais pas vous dire pourquoi.
Apparemment, le mot, pour le coup, est d'origine grecque, de ce que vous êtes allé chercher, Rachid Santaki.
Effectivement.
Mais pour autant, pourquoi ce H? Ça, c'est une bonne question. On retrouvera, un auditeur nous dira peut-être dans un prochain courrier,
oui.
On vous répondra là-dessus. La semaine prochaine, hérésie, H, E, accent aigu, R, E, accent aigu, S, I, E, S. Hein. Qatar, comme le disait Xavier, C, A, T, H, A, R, E, S, un seul R. Et au culte de la Vierge, Vierge majuscule ou non?
Oui, je l'ai mis sous forme de majuscule, oui.
Tout juste, comme le midi, là, parce que c'est la Vierge elle-même. La Vierge Marie, la mère de Jésus, donc avec une majuscule. D'autres, avec un S une fois encore, font dériver, c'est un infinitif, ER, l'amour profane, un seul N.
Et un seul F.
Et un seul F, pas d'accent circonflexe, donc pas de piège. De l'amour de Dieu, on n'oublie pas encore une fois encore la majuscule à Dieu, si on l'a mis à Vierge en plus, en général. On n'est pas bien sûr que les cours d'amour aient jamais existé. Comment vous avez écrit, Xavier, on n'est pas bien sûr?
Alors, on n'est pas, c'est le verbe être, hein, EST, pas bien sûr, sûr, et là, tiens, encore un circonflexe. Il y a beaucoup de chapeaux dans cette dictée.
Ouais. Et juste sur de ne pas oublier le N apostrophe, hein, parce qu'on est dans une négation, et on pourrait croire avec le on, qu'on fait simplement la liaison on n'est pas, hein, mais il y a bien ON, plus loin, N apostrophe, EST.
Et puis, ce n'est pas non plus le verbe naître, parce qu'on l'a eu, hein,
exactement.
Naître.
Exactement, j'ai pensé
exactement.
À ce naître.
Donc là, c'est N apostrophe EST, pas bien sûr que les cours, C-O-U-R-S, comme le cours de l'histoire, d'amour, aient jamais existé. À quel temps sommes-nous là?
Alors, ce temps-là, nous sommes sur un subjonctif imparfait.
Passé.
Passé, oui, passé. Et est, c'est l'auxiliaire avoir, A-I-E-N-T. Et c'est à ce moment-là que le neurone s'agite sur France Culture, sur l'accord d'exister.
Et pourquoi il devrait s'agiter?
Il n'a jamais existé. Les cours d'amour, mais en fait, il n'y a pas d'accord. Hein,
bah non, parce que c'est à l'auxiliaire
avoir. Et voilà, mais ça fait peur.
Si, si,
l'accord du participe passé fait toujours peur systématiquement. Il ne faut pas choisir d'autres règles que le frisson au moment d'évoquer l'accord du participe passé.
Non, mais ça, on sait aussi qu'il aurait fallu un complément d'objet qui précède.
Exactement,
d'où la question. Pour pouvoir l'accorder avec cet auxiliaire avoir.
Les cours d'amour n'ont jamais existé. Quoi? Bah, rien, donc il n'y a rien.
Bon, je crois qu'on s'en sort pas mal sur cette dictée en termes d'explication des difficultés. Je n'en vois pas d'autres à première vue, mais je vous rappelle que l'intégrale de la correction est à retrouver sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Combien de fautes, Xavier?
Alors, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, oui, c'est ça, j'en vois 3, 4.
Revenez quand vous voulez. Hein.
Ah, c'était un plaisir en tout cas d'être avec vous, Olivia.
Vous aviez saisi vraiment du plaisir de la dictée. Finalement, ouais. C'est un prétexte pour nous retrouver et en apprendre aussi.
Il nous reste juste une ou deux minutes avant de se quitter. Xavier, qui détient le record de la phrase la plus longue? Est-ce que vous avez une idée, vous, Rachid Santaki, dans l'histoire des grands textes classiques, des grands auteurs, vous qui les avez beaucoup parcouru parmi ceux que vous nous présentez, avec lesquels vous nous torturez régulièrement tous les samedis. Vous diriez qui?
Je jette un regard vers Xavier.
Hugo, je ne vous donne pas d'indice, Rachid. Je vous dis juste que si vous trouvez, vous aurez comme récompense une madeleine.
Bon, voilà. Et pourtant, on ne pense pas à lui tout de suite. Hein,
c'est vrai, on
de
pense beaucoup à Balzac, mais c'est Proust, oui.
Bah, en fait, c'était d'abord Balzac et Proust ensuite l'a emporté, mais pas dans la recherche.
Non, c'est ça. Mais c'est ça qui est intéressant en plus de voir, parce que nous l'avons placé dans le livre là, avec Laure de Chantal, cette longue phrase. Et en fait, c'est extrêmement lisible. Mmh. Comme quoi, il est tout à fait possible. Alors que, pour ma part, je conseille beaucoup de faire des phrases très courtes, sujet, verbe, complément, ça fonctionne très bien. Mais parfois, mais il faut s'appeler Proust, il est possible de faire des phrases extrêmement longue.
Voilà, il s'était mis au défi lui-même, et juste de dire qu'il a été depuis détrôné hein, au Guinness Book de la phrase la plus longue par un auteur qu'on aime beaucoup ici à France Culture. Vous le citez, c'est Mathias Sénard, qui sera à ce micro demain à 17h pour sa salle des machines. Et dans un de ses derniers romans, j'ai perdu je ne sais plus lequel. Mais c'est à retrouver dans votre livre si on tient à voir le détail, et surtout la phrase de Proust qui jusqu'ici avait brillé. Le mystère du X, vous qui vous appelez Xavier, vous l'avez résolu?
C'est Zone, hein, l'ouvrage de Mathias Sénard. Voilà, c'est ça.
Le mystère du X.
Ce X est quelque chose d'absolument incroyable parce que là aussi, nous touchons à ce qui concerne la mise en forme, mais je veux dire vraiment typographique, de l'écriture. Et donc, c'est ce mélange presque de double S qui apparaît. Et c'est sûr qu'un cheval, des chevaux, eh bien, nous le voyons se construire tout doucement dans l'histoire avec le S qui marque le pluriel de manière très logique. Et puis, à un moment, ce pluriel simple ne suffit plus. Et donc, les copistes mettent en place cette forme étonnante qu'ensuite, les pionniers de l'imprimerie reprennent et apparaît notre X qui s'impose et qui fait que notre langue, évidemment, sans le X, serait moins sexy parce qu'elle serait CI.
Mmh. Voilà, donc bijoux, chou, caillou, etc. Juste une règle qu'on se pose très souvent, je ne sais pas si vous avez la réponse, sur ces féminins qui se terminent en « et » pas en « et » comme la parité, par exemple, un mot qui aurait plu à Simone de Beauvoir.
Ah, c'est la grande difficulté de tous ces mots, en fait, qui survivent de traces du passé et d'exceptions, en fait. C'est le charme de la langue française. S'il y avait ces règles figées, il y en a plein en français, eh bien, ce serait extrêmement simple, mais en français, il y a plus d'exceptions que de règles. Et dès lors, une fois que cela est posé, nous saisissons combien il est difficile d'écrire le français. Mais c'est ça qui rend cette langue charmante. Petite pensée pour les étrangers qui doivent apprendre le français. Où là, c'est extrêmement compliqué. Et Rachid le sait bien, parce qu'au moment de faire la dictée, nous prononçons les mots. Mais parfois, certains mots se prononcent de la même manière. Et je n'ai jamais compris comment un étranger pouvait survivre quand on lui dit « les poules couvent au couvent ». Couve et couvent s'écrivent exactement de la même manière, se prononcent complètement différemment. Et donc voilà, il y a cette magie de la langue en fait. Mais voilà, vous l'aimez tout autant que moi et que tous les auditeurs, les auditrices.
Énorme merci Xavier Mauduit d'avoir été avec nous. Vous faites une photo de votre dictée ou vous nous la laissez. On la poste pour la postérité sur le site d'En français dans le texte. Un grand merci aussi à vous Rachid Santaki.
Merci,
à la semaine prochaine. Je rappelle le titre de votre livre, Notre grammaire est sexy. Déclaration d'amour sexy, hein, elle aussi, à la langue française, coécrit avec Laure de Chantal, qui elle est agrégée de lettres, alors que vous êtes monsieur l'historien. C'est chez Stock dans la collection Passeurs d'Histoire.
Merci beaucoup Olivia.
Merci.
Merci Xavier.
Toutes les informations sont à retrouver sur la page de l'émission sur franceculture.fr. En français dans le texte, une émission préparée par Sandrine Chaperon et Jeanne Delecroix, avec l'aide de Zora Vigné. À la réalisation aujourd'hui encore, Mydia Portis-Guérin, avec Laurie Vachon à la technique. À la vidéo, Anthony Thomasson. Très belle fin de journée sur France Culture. Je vous retrouve lundi pour une nouvelle semaine de la Grande Table, avec pour commencer, bien commencer, le cinéaste Terry Gilliam et la sociologue Marie-Rose Lagrave.